Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Du coup, quand tu dis « zut, je suis instable » ou « zut, on m'apprécie pas » ou « on me prend pas à ma juste valeur », etc., c'est juste que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas à ton endroit. Toute ma vie, quelque part, moi, j'ai eu l'impression qu'on me disait non parce que je ne rentrais pas dans les cases, parce que j'étais atypique, parce que je ne correspondais pas à la norme de par mon esprit créatif, ma volonté de faire des choses que les autres ne voulaient pas faire, etc. Et c'est parce que je me suis pris un non qu'à la fin, je me suis dit « mais il faut juste s'accepter ». Et ces noms-là m'ont fait réaliser qu'il fallait s'écouter. Je souffrais de ne pas être comme tout le monde, alors qu'aujourd'hui, en fait, je suis très contente, j'assume complètement et comme ça, je sors un peu du lot et c'est très chouette. Mais pendant 12 ans, je n'arrivais pas à comprendre que ça pouvait avoir de la valeur ajoutée que d'être un ovni.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Pénélope. Pénélope a été le premier épisode que j'ai diffusé en janvier 2020. Elle fait partie des très belles rencontres que j'ai faites grâce au podcast. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Pourquoi pas moi. Rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Vous pouvez également vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Allez, je referme la parenthèse pour revenir à Pénélope. Elle a passé plus de 12 ans à se chercher en enchaînant les super jobs. Mais quand on n'est pas à sa place, on ne peut pas être bien. Découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé en un an dans la fabuleuse vie de Pénélope Boeuf.
Bonjour Pénélope.
Bonjour Charlotte.
Je suis super heureuse de te retrouver un peu plus d'un an après. Quand on s'est quitté, tu nous disais que tu devais faire un spectacle en octobre, que tu devais sortir Rap and Roll. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la dernière année et là où tu en es?
Alors, j'ai en effet sorti Rap and Roll, ma fiction audio, qui a correctement fonctionné. En revanche, le spectacle... je ne vais pas me cacher derrière le Covid parce que ce n'est pas à cause du Covid que je ne l'ai pas fait, c'est vraiment parce que je ne l'ai pas travaillé, parce que j'ai eu d'autres priorités comme des livres et comme refaire une nouvelle saison pour l'arnaque et d'autres projets à côté vidéo. Et donc en fait, le théâtre, je me suis dit, ce n'est pas pour maintenant, je ne me sens pas assez prête même à monter sur scène, c'est un autre boulot de réécriture encore et peut-être que ce sera 2022, mais en tout cas, ce n'était pas 2021 et peut-être 2022, 2023, j'en sais rien.
Ouais. Donc du coup, Rap and Roll, en effet, c'est sorti, ça a bien fonctionné. Enfin, moi, j'avais écouté, j'avais adoré. Et là, t'as eu donc une nouvelle saison de l'arnaque. C'est la combienième que tu as sorti?
Là, c'est la saison 9. Donc au final, j'aurai 130 épisodes sur l'arnaque. Ça commence à faire beaucoup. Après, on me demande encore des saisons 10, 11, 12, même si les audiences grimpent pas plus. Étonnamment, tu vois, je suis environ à 5000 écoutes par jour, ce qui est bien, mais j'ai déjà eu 8. Donc, en fait, les gens s'en vont, reviennent, etc. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a écouté un épisode, on ne va pas revenir. Alors qu'une interview, on peut potentiellement aller réécouter l'interview, reprendre des notes et tout. Alors que l'arnaque, c'est 5 minutes, hop, t'as écouté, tu passes au suivant et tu ne reviens pas. Donc, voilà. Après, j'ai peur de faire d'autres saisons et de me dire, ces épisodes sont moins bons, je veux m'arrêter au bon moment, tu vois. Donc, d'un côté, on me dit, vas-y, refais-en, mais tout comme à chaque fois, on dit à Netflix, refais une saison, et puis si sa saison est pourrie, on dit, pourquoi il en a refait une, quoi? Parce que vous aviez demandé, oui, mais bon, fallait la faire bien.
C'est un peu pareil. On a tous en mémoire Les Visiteurs 3 ou Bienvenue.
Mais toutes les saisons, il y a toujours une saison à un moment qui va pas bien. Plan cœur, la saison 2, 3, ça va pas. Enfin, ouais. Bon.
On verra. S'arrêter au bon moment. Un vrai challenge.
Exactement.
Et du coup, tu disais des vidéos?
Ouais, là, je suis en train de créer des petites capsules d'une minute trente humoristiques que je fais avec une grosse boîte de prod et qu'on va essayer de vendre à des chaînes télé. Donc, j'espère que ça sera pour là, milieu d'année.
Ok. Dans tes grands challenges, le livre, on va en reparler évidemment parce que ça c'est la maxi nouveauté. On enregistre le 12 mars, mais ça sera les livres sortent la veille le 17, la veille de la diffusion de cet épisode. Dans tes grands challenges de 2020, il y avait le fait que le chômage allait prendre fin et donc du coup qu'il allait falloir vivre de ton projet et être autonome financièrement grâce à ton projet.
Oui. Eh bien, si je suis là, Charlotte, c'est que j'ai réussi.
Bravo.
Écoute, j'ai réussi, non sans mal. En fait, ce qui m'a vraiment aidée et sauvée, c'est paradoxalement le confinement. C'est-à-dire que moi, pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé. J'ai notamment fait le podcast de Mythique, l'application de rencontre. J'ai aussi fait le podcast de l'Association française des urologues. Et j'ai fait deux autres petites marques parce que les marques devaient se diversifier, se sont mis sur le podcast et ils sont venus me voir parce que je devais sûrement être moins cher que les autres studios et j'avais ma patte à moi et ça m'a aidé. C'est grâce à ces deals que maintenant je peux continuer à ouvrir mon studio et me payer. Alors, il faut pas que je me repose sur mes lauriers parce qu'il va falloir que je rentre d'autres marques. Mais en tout cas, voilà, ça m'a mis un gros pied à l'étrier. Sinon, je ne sais pas où je serais d'ailleurs. Si j'avais pas signé ça, c'est dingue de se dire que je ne ferais plus ça. Je ne pourrais pas. Je serais redevenue, salarié ou j'aurais fait de la formation, que de la formation. Donc, c'est un miracle, quoi. C'est génial.
Un miracle ou le fruit de beaucoup de travail et de talent.
Ouais, et puis une question de timing aussi parce que le travail, oui, ça paye, mais parfois, ça paye pas toujours si t'arrives pas au bon moment. Donc, c'est un regroupement une synchronicité, comme on dit, un alignement des planètes.
Génial. Et donc là, aujourd'hui, dans ce qui te permet donc de vivre, c'est les podcasts de marque essentiellement?
C'est les podcasts de marque. Et maintenant, quand même, comme j'ai pas mal de chaînes qui fonctionnent bien, je fais de la monétisation sur mes podcasts. Et plutôt, alors j'en fais aussi, mais je passe par la régie Acast qui prend une commission évidemment, parce qu'ils sont régis. Mais je vais moi directement voir les marques et je négocie directement du host-read, donc ça veut dire du pré-roll. Des spots en avant d'épisodes et là c'est jackpot parce que c'est moi ça me prend juste le temps de faire un spot, je le colle et puis c'est en fonction du nombre d'impressions qu'ils prennent, donc ça fait des petites rentrées. C'est pas assez pour tenir une année hein, mais ça fait des petites rentrées, c'est des compléments.
Ça j'allais dire, ça paye les clubs ou un peu plus.
Exactement, un peu plus quand même, ça paye beaucoup de clubs.
et aujourd'hui donc tu arrives à vivre de ton projet, c'est quoi tes nouvelles peurs?
Une nouvelle peur, c'est que ma prochaine peur, c'est que le livre soit un peu aux oubliettes, évidemment. Enfin, qu'il passe aux oubliettes, qu'il n'ait pas la lumière que j'aimerais qu'il ait. Même si on sait que le milieu d'édition c'est très compliqué et qu'il y a très peu d'appelés. Enfin, très peu d'élus. Enfin, il y a des appelés, des élus. Bref, enfin, il y en a très peu qui arrivent à émerger, qui arrivent à faire beaucoup de ventes. C'est pas là-dessus que je compte gagner des sous, mais en tous les cas, j'aimerais quand même que ça m'aide à m'ouvrir des voies, notamment à, je sais pas, pourquoi pas faire des chroniques à la radio, à la télé, que ça m'ouvre d'autres portes, d'autres perspectives. Si jamais ça fonctionne pas et que personne le lit et que personne l'achète, et ben c'est pas grave, je serais quand même contente de les avoir dans ma bibliothèque parce que j'aime bien leur couverture, ils sont pop. Mais ouais, c'est ça, ça c'est ma peur à court terme. Enfin, après une peur, on se détend, hein, je suis pas tremblante tous les matins, mais c'est une petite appréhension. Et sinon, mes prochaines peurs, c'est de pas réussir à me payer à la fin de l'année, de pas réussir à rentrer à cette marque, parce que évidemment que sans les marques, c'est ça quand même le gros du truc. Donc sans marque, je peux pas vivre. Donc il va falloir que, et comme j'ai une boîte et je suis pas auto-entrepreneur, tu te payes 2 000, ça vaut 4 000, ça coûte 4 000. Donc il faut en rentrer des sous. Donc il va falloir redoubler de motivation, de travail et d'énergie. Mais en même temps, j'adore ça. Mais voilà, c'est les petites appréhensions. Après, j'imagine qu'il y a d'autres qui vont se créer au fur et à mesure des semaines, mais je les connais pas encore, et tant mieux, parce que si je savais déjà toutes les peurs qui m'attendaient, je serais dans mon lit en train de déprimer.
Et c'est quoi tes plus grandes réjouissances de l'année passée?
C'est vraiment Mythique, parce qu'on a fait un énorme travail, ils m'ont appelé, ils m'ont dit dans 4 jours, il faut que tu nous ouvres une chaîne en français, puis que tu la traduises en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais, Et puis après, hop, on fait une deuxième saison et on, hop, une troisième. Et tu sais quoi, en fait, on est hyper contents. C'est le meilleur podcast de Brain Content. C'est ce qui a été le plus écouté en 2020. On va en refaire d'autres et on va le faire avec toi parce qu'on adore ton style, on adore ton agilité. Et oui, c'est sûr que c'est sans doute moins parfait qu'avec un vrai studio, mais c'est créatif, ça sort de l'ordinaire, ta 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 ta. Et ça, c'est extraordinaire de se dire qu'on a une reconnaissance professionnelle. Et ça, c'est extraordinaire. Après, le fait d'avoir terminé mon livre aussi, parce que j'ai mis du temps, hein. Il y en a déjà un qui devait sortir en 2020, il n'est pas sorti, ta ta ta. Là, le fait de faire une collection, ça, voilà, ça fait du bien de le sortir. Et quand même, et ça, c'est une réjouissance qui est là, c'est ma plus grosse, en fait, c'est que je sors le 6 mai prochain le Créer son podcast aux éditions Les Nuls, donc la couverture noire et jaune. Enfin, qui d'ailleurs, la couverture n'est plus noire et jaune, hein, mais bon, bref.
C'est dans les années 80.
Dans les années 80, la couverture était noire et jaune. Et donc voilà, c'est Créer son podcast pour les nuls. Là, j'ai mis vraiment toutes mes tripes. Et c'était comme écrire une dissertation de 450 000 signes. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de très structuré, etc. Et pour autant, j'ai réussi. Ça, je suis assez fière d'avoir terminé ça parce que je crois que j'ai réussi à faire un livre d'apprentissage qui soit pas chiant. Parce que souvent, les livres d'apprentissage, ça peut être, tu vois, tu prends ta feuille, tu notes à côté. Non, là, c'est presque un livre de chevet. Tu le lis parce qu'il y a un peu de développement personnel. Et j'ai donné vraiment tout ce que j'avais dans les tripes pour aider les gens.
Trop bien. Ça s'est passé comment, du coup, l'écriture de ces deux livres? Comment, ce que ça venait de toi? T'as été contactée?
Oui, alors en fait, c'est Versilio, qui est une maison d'édition agent d'auteur, qui m'a contactée parce qu'ils connaissaient mes podcasts. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux pas écrire un livre? Et je dis, un livre? Non, mais attendez, je sais pas écrire de livre. Bah oui, mais tu sais écrire des podcasts. Oui, bah c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. Dalala. Bref, finalement, j'aurais proposé des trucs. Ils m'ont dit, super, on a écrit un premier bouquin qui devait sortir donc le 6 mai 2020. Finalement, le 6 mai, bah, à cause du Covid, il est pas sorti. Donc moi, je l'ai relu. J'ai dit, mais en fait, vous savez quoi? Il était prêt. Hein. Ça ne me convient pas. Parce que il y a que 30 chapitres. Et moi, j'ai plein d'aventures à raconter sur les hommes, mes voyages, le boulot, ma vie, mon carcan d'éducation, ce par quoi je suis passée, le fait que j'ose, que je pousse des portes, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une collection? Les aventures de Pénélope Boeuf, un peu comme Martine à la plage, mais pour adultes et en livre et pas en BD. Et donc on s'est maqué avec Flammarion. Et donc maintenant je suis éditée chez Flammarion et on sort ces deux premiers livres. Les deux autres sortiront plus tard. Et ça a été tout un retravail entre prendre les chapitres que j'avais fait dans le premier, que j'en réécris des nouveaux, que je fasse une sorte de chronologie de cette fille qu'on voit grandir de 0 à 37 ans. Donc ça a été un boulot monstre pendant 2 ans si on reprend le premier, mais cette collection a été retravaillée depuis un an. Ouais.
Ça a dû être, j'allais dire difficile, mais je sais pas si c'est le mot, parce que finalement, quand t'écris un bouquin, te dire ça y est, c'est fini, et puis dire finalement, bah non, en fait, c'est pas fini, ça, bon, on le remet en mode brouillon, et on repart d'une page blanche, c'est horrible.
Ouais, mais c'est horrible, parce que je devais accoucher le 6 mai.
Ah oui, non, mais c'est clair.
Ouais. Non, mais c'est horrible. Et en fait, on te dit, on te dit, moi aussi, hein, mais je me suis dit, en fait, non, on va tout refaire. Mais sauf que tu te dis, mais je repars pour une grossesse qui va être très longue. Ça se trouve, ça va être moins bien. Peut-être qu'on se plante à faire une collection. C'est hyper difficile. Donc là, enfin, ça y est, ça y est, il vient de sortir et c'est jouissif de se dire qu'il est en librairie et non, mais c'est génial.
Et comment ils vivent ça, ta famille?
Ma famille, ils sont très, très, très excités pour moi. Ils en reviennent pas, je crois. Et quand je leur dis, vous pensez que ça peut marcher? Ils sont là, on s'en fout, Pénélope. C'est pas le sujet, t'as écrit un bouquin. C'est quand même extraordinaire d'avoir des bouquins de toi, chez nous. ils sont. Après, je parle d'eux quand même. Donc,
C'est pour ça que je te pose la question.
Ouais. Parce que je leur ai fait lire avant de publier et je leur ai dit, est-ce que tout ça vous va? Et ma mère, elle m'a dit, mais tu peux y aller autant que tu veux. De toute façon, elle m'a dit, c'est pas moi qui l'écris, c'est toi, c'est ton point de vue. Donc, moi, je suis hors du truc. C'est comme ça que tu vois les choses. Très bien, mais je ne me choque en rien. Sauf à un moment, quand je dis qu'elle est nulle en informatique, c'est la... J'ai dit, maman, c'est la vérité, qu'est-ce que je te dise? Bref. Et ma sœur, ça lui a fait aussi un peu bizarre de se dire, tiens, je suis quand même dans ton livre, quoi. Je suis identifiable. En plus, elle est très pudique. Mais pareil, c'est mon point de vue. En plus, c'est souvent en point de vue. Ma sœur, elle est en point de vue de petite fille parce que c'est ma grande sœur. Donc, je suis la petite sœur qui, avec le regard d'une petite fille de 8 ans. Et mon père, il était hyper fier. Il me dit, c'est dingue que tu aies réussi à faire ça. Enfin, voilà, ils sont, Alors que bon, c'est juste un bouquin. Enfin, juste, c'est énorme, mais en vrai, c'est juste un bouquin. Tu vois, il y a rien d'engageant. Et donc, ils sont assez contents. Ils en reviennent pas. Et voilà, là, ils se disent. Et alors, j'espère que tu vas pas non plus nous mettre dans le tome 3 et 4. Je dis, non, vous inquiétez pas, c'est sur les mecs et les voyages. Vous êtes pas dedans.
Mais oui, parce qu'en fait, le livre, parce que bon, il y a des anecdotes que tu racontes dans l'arnaque, mais qu'on retrouve dans le livre. Mais je pense que dans l'imaginaire, dans l'inconscient des gens, le livre, c'est quelque chose qui est quand même sacré, en fait.
C'est sacré, c'est même, j'ai envie de dire, noble.
Ouais.
Il y a un côté noble dans le livre et c'est aussi sacré dans le sens où c'est écrit noir sur blanc. Et quand on reprend ça, cette expression, tu me l'écris noir sur blanc, bah, ça veut dire que c'est écrit noir sur blanc, quoi. On ne peut plus l'enlever. Alors maintenant, avec Internet, on peut encore moins enlever quand tu es sur Internet et donc avec le podcast aussi. Mais c'est en effet pas pareil de l'écrire parce que je trouve ça presque plus fort de l'écrire que de le dire, quoi. Parce que tu as eu le temps de réfléchir, tu as eu le temps de poser tes mots, de les peser, de te dire ça, je le pense et donc je l'écris et je suis prête à le diffuser publiquement. Donc c'est vrai qu'il y a un côté quand même impliquant.
Ouais. Moi, je vois, tu vois, je sors un livre le 16 avril et quand j'en parle dans mon entourage, alors il y a des gens qui savent que j'ai écrit un livre, d'autres non. Et quand je dis, bah oui, il y a mon livre qui sort, et là, ils me regardent avec des yeux genre, mais t'as écrit un livre? Et c'est vrai que t'as envie de dire finalement, bah, j'écris un programme, ça m'a pris autant de temps que d'écrire le livre, mais c'est un livre en fait.
C'est un livre et les gens, et tout de suite, ça te donne une sorte de légitimité, de crédibilité, de solidité. Alors que non, mais oui, c'est sûr que ça te crédibilise, mais tu pourrais faire un TEDx et c'est très, très compliqué de faire un TEDx aussi, même si ça dure que 18 minutes, c'est aussi très, très lourd. Mais d'ailleurs, je pense que tu dirais, je ferais un TEDx. On te dirait aussi, tu fais un TEDx.
Ah bah ouais, clairement. Enfin, en même temps, j'avais candidaté pour faire un TEDx. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Mmh. Mais il y a mon frère qui m'a dit, non, mais tu sais, maintenant, faire un TEDx, c'est facile par rapport à l'époque. Je dis, bah, merci.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est plus facile maintenant qu'avant. Avant, TEDx, c'était vraiment les happy few, quoi.
Ouais. Mais on est des happy few.
Mais on est des happy few.
Si on se dit qu'on est des happy few, on est des happy few.
On sera des happy few, exactement.
C'est un mindset. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser cette dernière année?
La plus grande difficulté que j'ai eue à traverser cette dernière année, c'était de mener tous mes projets à la fois. C'est-à-dire que j'ai été un peu débordée pendant le confinement. C'est quand même horrible de dire ça, mais bon, j'ai été débordée avec Mythique plus la rédaction du livre, enfin des livres, c'est quand même deux bouquins, plus la gestion avec l'illustratrice, enfin énormément de travail tout le temps, plus l'arnaque, plus rap'n'roll, plus tout le temps, mais en même temps, c'était pas une difficulté parce que moi j'adore être débordée, sinon je m'ennuie sacrément. C'était pas vraiment une difficulté. Après, évidemment que c'était hyper difficile de rester chez moi toute la journée comme tout le monde et de pas pouvoir sortir et de pas voir mes copains. Et ça a été violentissime, mais bon, comme tout le monde, donc ni plus ni moins. Et mais ça a été surtout de réussir à tout faire et de pas péter un plomb parce qu'il y a un moment, je voulais pas aller faire ce fameux burn-out là, m'en faire un deuxième. On sait ce que c'est. Et maintenant, je connais mes limites et tout, mais je sentais qu'il y avait des moments où tu vois, franchement, Mythique, je me couchais à 3h du mat pour bosser, je me relevais à 6h parce qu'il fallait tout pondre en 4 jours. Je me suis dit, là, hop, ça va pas bien. En plus, j'allais courir le matin pour me expulser tout ça parce que j'avais besoin de faire du sport. Enfin, voilà. Mais au final, c'était que du bon parce que quand tu signes des belles marques et que tu produis et que tu crées, moi, je suis la plus heureuse du monde.
Ouais. Justement, c'est marrant parce que tu, en lisant le deuxième tome, tu parles du burn-out et dans le podcast l'année dernière, tu avais dit que c'était un pseudo burn-out, mais là, tu mets vraiment le mot sur le fait que ça, c'était un burn-out. Comment tu vis maintenant avec ça? Et justement, comme tu disais, maintenant, tu te connais et comment tu fais pour te préserver?
C'est difficile parce que je sais qu'à chaque fois, je suis à la limite. Mais je suis à la limite, pas à la limite du burn-out, mais je suis à la limite du Pénélope, tu vas en burn-out, ce qui est en fait une étape encore avant, en amont. Et quand je sens que je suis là, je me détends, je me dis, Pénélope, c'est trop con, tu vas regretter, en fait, d'y être allé, parce qu'on sait qu'à quel point c'est dur de remonter la pente, c'est dur. Même si on se dit qu'on y arrivera, on y arrivera. Non, c'est comme ça. On peut pas le remonter tout de suite la pente. Donc, je me détends, j'arrête, je dis non à des petits projets, parce que j'avais tendance à dire oui à tout. Donc, à un projet à 500 euros, je disais oui, alors que ça me prenait 3 jours, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et donc maintenant je priorise. Si j'ai pas le temps, je dis bah écoutez, pas pour tout de suite. Avant, j'avais toujours 10 mails ouverts sur mon email pour répondre vite aux gens, Maintenant, je vois le mail, je fais OK, c'est pas urgent, je répondrai plus tard. Enfin voilà, j'essaye de me, je me discipline, mais c'est hyper dur parce que moi, j'ai envie de lui répondre tout de suite, comme ça, ça sera, déjà parce que ça sera fait, moi, hop, ça en moins à faire, et puis parce que lui sera content d'avoir la réponse tout de suite. Parce que moi, j'aimerais bien avoir des réponses tout de suite. J'en ai rarement tout de suite, mais.
Amis journalistes, si vous écoutez le podcast, répondez à Pénélope et interviewez-la.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile l'attente. Et moi, j'aime pas faire attendre les gens parce que j'aime pas attendre. Donc, mais bon, j'apprends à me dire, c'est pas urgentissime. Il n'y a rien d'urgent et puis rien n'est grave et on se détend. Et si tu sais quoi, tu sors pas ton épisode le lundi, alors que t'es, depuis 2 ans, tu le sors le lundi, et ben, c'est pas la fin du monde. Les gens vont te dire, bah, pourquoi il n'y a pas d'épisode? Et ben, tu diras, et ben, ça sort demain. Et c'est pas grave. Alors, pour l'instant, j'ai réussi à le tenir, hein, à le faire le lundi, mais, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. C'est plus important la santé, quoi.
Et c'est quoi, toi, tes petits symptômes qui te font dire que tu prends pas le bon chemin?
Je parle très, 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 très vite. Je suis surex. Je bafouille tellement je parle vite. Et moi-même, je me dis, oulala, c'est bizarre. Mes potes me disent, disons, t'es stressée, hein. Alors qu'en fait, ils me disent jamais. Je parle vite, je suis toujours stressée, etc. En règle générale, mais quand ils me le disent, c'est que je et ça m'inquiète quand ils me le disent parce que ça veut dire que j'ai passé un stade. Et là, je leur dis comment ça, je suis stressée. Ils me disent mais t'as vu la vitesse à laquelle tu parles là? Je dis bah comme d'hab. Non non, pas comme d'hab, ça va. Je suis là merde, peut-être que ça va pas. Et puis je suis tout le temps, j'ai pas le temps pour rien. J'ai le temps pour rien. Et je mange comme une grosse vache aussi. Enfin, voilà, tout ça, je suis là, je compense. Donc, voilà, ça, c'est quand je sens que tout ça, j'arrête, il faut arrêter. Il faut se calmer, il faut s'écouter et respirer.
Je pense, ça, c'est un vrai enjeu, c'est d'apprendre à se connaître, surtout quand on a fait dans la vie tout court et quand on a fait un burn-out, justement, parce que, tu vois, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mon dernier rendez-vous chez la psychiatre, avant de quitter Paris, en me disant, bon, bah, ça y est, on se quitte, je quitte Paris, donc, on ne se verra plus. Et je lui ai dit, mais en gros, est-ce qu'on guérit un jour du burn-out? Et elle m'a dit, en fait, non, on apprend à vivre avec. Et d'ailleurs, tu vois, récemment, j'ai dû remplir un questionnaire de santé pour le prêt de la maison. Et ils m'ont demandé, ouais, en gros, mes antécédents et compagnie. Et en gros, ils m'ont demandé est-ce que j'étais guérie. Mais oui, je vais leur dire que je suis guérie parce que je vais beaucoup mieux. Mais en vrai, c'est un truc que tu... Après, c'est ce que quelqu'un me disait, c'est que c'est un garde-fou. C'est que du coup, ça te permet de connaître vraiment tes propres limites. Et...
Ah bah c'est génial, quelque part, de l'avoir fait une fois parce que tu sais que... Enfin, tu peux retomber une deuxième fois, mais tu sais tellement que c'est dur que tu fais tout pour pas. Après, c'est comme la clope. Hein. Dès que tu arrives à arrêter, c'est trop génial. Et puis, tu te dis jamais je retomberai. Et puis, en fait, un jour, tu retombes. C'est un peu pareil. Puisque tu te rends pas compte que ça va être dur d'arrêter derrière et que t'as trop envie, tout comme le burn-out, t'as trop envie de pousser et en même temps, tu t'oublies que c'était difficile de remonter. Mais, en effet, le fait de l'avoir fait une fois, ça peut t'empêcher de le refaire une deuxième. Tu te préserves. Donc, on souffre une fois, mais pas deux.
Ouais, mon mari, il me dit, il y a que les cons qui font deux fois la même connerie.
Ouais, après, con ou pas, parce que c'est pas vraiment, je sais pas si c'est une connerie de retomber dans le burn-out. Enfin, si, bien sûr que c'est une connerie, mais, c'est plus fort que toi, tu as ce besoin d'eux et il faut aller guérir ça parce qu'en fait, avoir besoin de tout le temps être en suractivité, se surdépenser, ne pas apprendre à s'ennuyer, vouloir tout le temps performer, tout ça, c'est des sujets sur lesquels il faut travailler soi-même parce qu'il y a un sujet.
Ouais, c'est sûr. Il y a une personne sur Instagram, quand j'ai dit que j'allais te retrouver aujourd'hui, qui m'a demandé de te poser comme question comment tu dépasses tes pensées limitantes.
Je comprends pas la question.
Les pensées limitantes, c'est nos freins qu'on se met nous-mêmes en fait.
Je crois que j'ai pas tellement de limites. C'est un peu ça le problème, c'est que j'ai pas de limites. C'est pour ça que je peux facilement tomber à la renverse. Et j'ai pas tellement de limites. Et c'est ça qui fait ma force parce que. Sinon, je ferais pas tout ce que je fais, j'oserais pas tout ce que j'ose et j'ai pas tellement de limites. Vraiment, à tous les niveaux, je peux aller très loin. Et en fait, ma seule limite, c'est la sécurité, tu vois.
Dans la pyramide de Maslow au top, quoi.
Ouais, parce que je m'arrête quand ça devient dangereux et quand ça, voilà. Mais sinon, c'est nos limites. Mais en fait, je comprends même pas ce que c'est qu'une pensée limitante. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait? Déjà, pourquoi est-ce qu'on se limiterait à penser? Ensuite, pourquoi est-ce qu'on se limiterait à oser? Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à travailler? Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à... Non, je me limite pas. Alors, je sais pas si ça fait sens, mais là, comme ça, j'ai pas l'impression de me limiter dans quoi que ce soit.
C'est top. Et d'ailleurs, c'est chouette parce que dans le deuxième tome, tu parles de la stratégie de la pénélopade. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi la pénélopade et comment on fait pour justement ne pas avoir de pensées limitantes avec tout ça?
La pénélopade, c'est le fait d'obtenir quelque chose a priori impossible ou très difficile à avoir et par l'usure. Donc, par l'usure, tous les moyens sont bons. Ça peut être insister auprès de la personne. Ça peut être lui envoyer plein de messages, l'appeler 15 fois, trouver des bons arguments intelligents et revenir alors qu'on nous a déjà dit non. Passer par le grenier quand on a claqué la porte, passer par la cave. Enfin, bref, trouver tous les moyens possibles pour arriver à ce que tu veux obtenir. Et ça s'appelle la pénélopade parce que moi, je le fais beaucoup. Mais ça peut s'appeler la charlotade, ça peut s'appeler la marinade, ça peut s'appeler la philippade, ça peut s'appeler tout ce qu'on veut. Et je pense que chacun, on a tous la possibilité de faire ça. Il faut juste s'affranchir du regard des autres, s'affranchir de la gêne qu'on peut rencontrer, de la pudeur, et se dire, mon objectif, c'est quoi? C'est ça. Et ben, je vais tout faire pour l'avoir. Peu importe. Alors, peu importe, toute proportion gardée, évidemment, mais allons-y, quoi. Je me donne les moyens d'y aller.
C'est ce que je te disais hors micro avant de lancer l'enregistreur. J'ai interviewé Annabelle Robert qui a écrit La théorie de la veste et l'épisode sera diffusé là dans quelques semaines. Et d'ailleurs, qui Annabelle a écrit un bouquin aussi pareil comme toi, Flammarion Versilio. Et ouais. Et elle, en gros, elle dit qu'il faut se prendre un certain nombre de vestes. Ce qu'elle appelle une veste, c'est un... J'ai perdu le mot. Enfin, c'est en gros, t'as essayé, on t'a dit non, quoi. Enfin, et ouais. dans la vie, il faut ne pas avoir peur de se prendre des vestes. Il faut s'en prendre pour justement avancer. Et puis, c'est ce qui va te créer des opportunités parce que on va te dire non, on va te dire non, on va te dire non. Puis à un moment, on va bien te dire oui, en fait.
Et c'est exactement ça. Et toute ma vie, quelque part, moi, j'ai eu l'impression qu'on me disait non parce que je rentrais pas dans les cases, parce que j'étais atypique, parce que je correspondais pas à la norme de par mon esprit créatif, ma volonté de faire des choses que les autres ne voulaient pas faire, etc. Et c'est parce que je me suis pris plein de noms que à la fin je me suis dit mais en fait le problème, ce que je ressens, du coup j'avais une haine un peu des autres. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'on m'accepte pas? Mais en fait il est pas là le sujet. Il faut juste que moi si je m'accepte, ça suffit. Il faut juste s'accepter et ces noms là m'ont fait réaliser qu'il fallait s'écouter. Et si on s'écoute, quand on se prend des vestes, ça fait mal, mais en même temps, pas tellement, parce qu'on va aller essayer de choper plein de trucs. Et il y a un moment, en effet, comme elle dit, Annabelle, en effet, on va nous dire oui. Parce qu'il y a tellement peu de personnes qui osent demander et qui osent faire des choses et qui osent passer par le grenier en se disant « je veux pas gêner, je veux pas déranger, j'aime pas m'imposer, etc. » que dès que tu le fais, les gens disent « oh, tiens, c'est surprenant, carrément, vas-y !» Et boum.
C'est clair. Ouais, l'idée, c'est de le faire toujours avec une bonne intention, étant respectueux. Et c'est ça qui, à un moment, sur un malentendu, ça peut marcher, quoi.
Bien sûr. Et alors moi, je mets toujours, parce que c'est mon style, mais je mets toujours des notes d'humour là-dedans. Ouais. De l'humour. Quand j'insiste, je trouve un petit truc rigolo, ou je fais une private joke, ou je trouve un truc sur la personne, ou j'envoie un paquet auquel il s'attend pas, mais qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est pas du harcèlement pur et dur, évidemment. Hein. Mais c'est ta façon de demander qui doit être un peu tournée rigolote, un peu mignonne. Enfin, tu vois, un peu, s'il vous plaît, ce serait génial. Mais attendez, vous vous rendez pas compte ce que ça apporterait à une jeune entrepreneur si vous arriviez à nanana. Et puis, la personne en face, ça me coûte quoi? Ok, allez, je lui file un coup de main.
Ouais, c'est clair. Puis, les gens aiment aider au final. Dans le livre, tu dis « La difficulté n'a pas tant été de trouver un travail que de trouver ce que j'aimais. Aujourd'hui, je ne travaille plus, je gagne ma vie. Ça m'a coûté un peu cher, mais ça n'a pas de prix. »
En fait, quand j'ai écrit cette phrase « Je ne travaille plus, je gagne ma vie », je l'ai écrite parce que j'avais l'impression de plus travailler, mais de gagner ma vie de façon intéressée. Enfin, je gagne de l'argent. Et puis, en fait, en l'écrivant, je me dis, mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Je ne travaille plus, je gagne ma vie. Au sens premier du terme. Je ne la subis pas, je la gagne. J'en fais une victoire, je suis victorieuse sur ma vie parce que j'ai pas du tout le sentiment de travailler. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai la chance de faire un métier qui soit passion, c'est-à-dire la création. et j'ai jamais le sentiment d'être dans le la souffrance du travail, dans le labeur. Et ça, c'est quand même génial de se dire ça, parce que du coup, j'ai l'impression de gagner ma vie, quoi. Je suis pas en train de la perdre, je suis pas en train de la gâcher, je suis
de la subir,
en train de la gagner.
Ouais. Et quand tu dis ça m'a coûté un peu cher, mais ça n'a pas de prix, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Je veux dire que j'ai quand même mis 10 ans, 12 ans avant de la gagner, cette vie, parce que, comme on venait de le dire, j'ai galéré pendant 10, 12 ans avec des boulots différents. À chaque fois, c'est des projets sympas, mais je sentais que j'étais pas à ma place. J'avais l'impression qu'on me regardait comme un ovni. D'ailleurs, c'est marrant parce que je sais plus qui m'a dit, Pénélope, ah si, c'est dans un autre podcast, on m'a dit que mon livre était un ovni littéraire. Une directrice des programmes de radio m'a dit que ma chronique que je lui avais faite en maquette était un ovni audio. On dit que mon Instagram est un ovni. Donc, en fait, c'est très marrant. Et à chaque fois, les gens me disent ça et je suis là, mais attendez. Et en fait, il y a un côté que je prends assez bien. Je suis assez contente, quelque part, d'être un ovni littéraire parce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas à tous les coins de rue. Et en même temps, c'est de ça dont j'ai souffert pendant 12 ans. C'est qu'on m'a toujours dit que j'étais un peu ovni, que je sortais des normes, des cases, etc. Et je me disais, mais pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Je souffrais de ne pas être comme tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je suis très contente, j'assume complètement et comme ça, je sors un peu du lot et c'est très chouette. Mais pendant 12 ans, j'arrivais pas à comprendre que ça pouvait avoir de la valeur ajoutée que d'être un ovni. Et ça, j'ai mis du temps. Et c'est pour ça que je galérais. Mais j'aimerais être comme tout le monde, accepter que mes idées, what the fuck, en fait, elles aient sens. Parce que moi, ça fait sens dans ma tête. Donc pourquoi dans vos têtes, c'est pas clair? Il y a un truc qui. Non, mais c'est vrai, je comprenais des trucs qu'ils comprenaient pas. Je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. Enfin, j'ai toujours été en décalage et je me disais, mais merde. Et en fait, maintenant, bah, c'est toujours le cas, je crois, mais je m'en fous et limite j'en joue. Et maintenant, les gens disent, oh, mais c'est génial, c'est trop différent ce que tu fais. Alors qu'avant, on me disait, oh, mais t'es trop bizarre, c'est différent ce que tu fais. Bah, maintenant, c'est génial aussi parce que les autres ont grandi et que moi, je m'accepte. Donc, du coup, on voit bien sur mon visage que je ne subis pas d'être ce que je suis, je kiffe. Et ça joue.
Ouais, parce qu'en fait, on a tous une singularité et on a tous tendance à rentrer en fait à vouloir rentrer dans un moule pour se faire accepter des autres. Oui. Mais finalement, le vrai sujet, c'est de s'accepter soi-même.
C'est ça la clé. Et une fois que tu t'es accepté, déjà tu acceptes les autres, tu es prête à aimer, tu es prête à faire tout et n'importe quoi et toutes les portes s'ouvrent. Ouais. C'est génial.
Ouais, je confirme. Et tu vois, c'est marrant parce que quand je t'ai interviewé, donc il y a plus d'un an, clairement, moi aussi, j'ai fait un bon petit bout de chemin au niveau de la compréhension de tout ça. Et il s'est passé beaucoup de choses en un an. Et tu vois, quand on voit ton CV où clairement, tu as été une, entre guillemets, on pourrait dire une zappeuse de job. Tu vois, ça me fait penser quand à un moment, moi j'ai fait pareil, hein, j'ai fait en 15 ans, j'ai dû faire 12 boîtes, enfin peut-être un peu moins, mais bon, j'en ai fait quand même beaucoup. Et il y avait des copains qui me disaient à chaque fois que je les voyais, genre bon alors t'as encore changé de job, genre un peu de façon ironique. Mais en fait,
ouais,
quand on écoute ton histoire et quand et moi je le vivais mal, mais en fait quand on voit ton histoire et tout, quand je regarde la mienne, c'est qu'en fait on n'était pas à notre place en fait. Et donc pourquoi en fait on changeait tout le temps de job? C'est pas parce que on était des personnes instables, c'est juste qu'on n'était pas à notre place en fait. Et ça change tout quand t'as compris ça.
Exactement. Exactement, parce qu'en fait tu te dis zut, c'est moi le problème. Et c'est pas tellement ça l'histoire, c'est que t'es pas au bon endroit et c'est pour ça que du coup ça ne fit pas avec les gens et avec le milieu dans lequel tu es. Il faut juste du coup quand tu te dis zut, je suis instable, ou zut, on m'apprécie pas, ou on me prend pas à ma juste valeur, etc. C'est juste que t'es pas au bon endroit, t'es pas à ton endroit. Oui, mais il est où mon endroit? Ça, je sais pas où il est, mais il est quelque part. Et peut-être que tu peux te le créer toi, et les autres viendront à toi, et ils seront dans ton endroit. Mais du coup, si t'es quelque part et qu'on te dit, non, mais arrête, c'est pas une façon de faire, si, c'est ma façon de faire. Oui, mais on fait pas ça comme ça ici. Ah! Si on fait pas ça comme ça ici, moi, je vais aller là où on peut faire ça ici.
Et tu vois, d'ailleurs, l'endroit, c'est un petit clin d'œil aujourd'hui. Donc, on est le 12 mars et justement, en fait, je suis comme toi, hein, je suis convaincue qu'on a tous un endroit qui fait qu'on est bien et que les planètes s'alignent. Et d'ailleurs, j'ai du coup créé un programme pour aider les personnes Bah, pour pouvoir trouver cette réponse-là. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel de ce programme. Et j'ai tellement Et en fait, j'ai tellement hâte parce qu'en fait, bah, voilà, moi, je suis convaincue comme toi et tu fais partie des exemples pour moi des personnes qui ont réussi à trouver leur place et qui m'ont fait me dire, bah, qu'en effet, quand t'étais à ta place, bah, tu pouvais être heureux et qu'après, bah, comme tu disais tout à l'heure, les planètes s'alignent. Et de me dire, et en fait, moi, ma conclusion, bah, par rapport à tout ce travail personnel, c'est que, bah, mission à moi, c'est d'aider les personnes, bah, à écouter leur petite voix et de se dire que, ouais, qu'on dire aux gens, mais vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de savoir quelle est votre place, quoi. En voiture, Simone.
Ouais. Après, c'est aussi difficile, une fois qu'on a trouvé sa place, parce que là, on se dit, ah, bah, du coup, c'est génial, elle a sa place, tout. Alors, oui, c'est génialissime, il n'y a pas de débat, t'as un nœud dans le ventre qui est complètement dénoué, c'est génial. En revanche, une fois que t'as ta place, t'es obligé un peu d'écrémer. Dans tes relations, parce que toutes celles qui te trouvaient nanana mais auxquelles tu t'accrochais parce que tu disais que c'était toi le problème, bah elles ont plus trop leur place dans ton endroit. Et donc t'es forcément, enfin en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis forcément un peu plus seule, mais ça me va très bien parce que au moins je suis avec que des gens qui fit avec mon endroit et qui comprennent ce que je raconte et qui comprennent ce que je dis et qui sont d'accord avec ce que je fais, etc. Mais je pense que ça c'est plus étroit du coup.
Ouais, ça, je trouve ça vachement intéressant que t'en parles. D'ailleurs, tu vois, on en a parlé avec Aurélie. C'est l'épisode qui a été diffusé hier, la semaine dernière pour les personnes qui vont nous écouter. Et ça, c'est un truc, tu vois, enfin, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé à date dans le podcast. C'est qu'en effet, clairement, quand tu deviens vraiment toi, quand tu t'assumes, ouais, ça fait forcément un tri dans tes relations parce que parce qu'il y a des personnes en fait où il y avait des choses qui t'énervaient un peu chez elles, mais en fait finalement après avoir pris conscience tu dis non mais en fait on n'a pas du tout les mêmes valeurs, nos valeurs sont à l'opposé et en fait on a tellement peu de temps que l'idée c'est de ce temps-là le passer avec les bonnes personnes en fait.
Exactement. Et ça c'est quand même un peu difficile parce que les bonnes personnes de ton endroit, si t'as mis autant de temps à trouver, c'est qu'il n'y en a pas énorme. Il y en a, hein, mais il faut les trouver et elles sont pas en tout cas dans ton milieu parce que tu t'es mis des années avant de trouver, donc elles sont pas là, quoi. Il y en a, hein, forcément. Les amis de toujours seront toujours là parce que c'est pas des amis pour rien, mais il y en a qui partent, quoi. Et puis tu les vois moins et ça se fait assez naturellement d'ailleurs. Hein, c'est pas du tout un tri genre toi tu dégages. Non, c'est naturellement vous appelez moins, vous comprenez moins, donc voilà, la distance se fait. Mais moi, je trouve c'est étonnant d'ailleurs, mais je trouve qu'en ayant trouvé ma place, je me sens beaucoup plus seule et en même temps beaucoup plus nourrie parce que les quelques personnes que j'ai, elles sont plus riches que riches. Et moi, je me sens aussi très riche d'être moi. Et en fait, quand je suis seule, ça me va très bien. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, ça y est, je me suis trouvée. Je me sens hyper seule, mais j'adore ça. Maintenant, j'adore être seule. J'ai apprivoisé la solitude plutôt que avant, je la subissais parce que je me sentais seule au milieu de tous ces gens qui n'avaient rien à voir avec moi. Là, je me sens seule parce que je suis quand même dans mon truc, mais dès qu'il y a des gens, hop, qui fit avec le même truc, c'est extraordinaire. Là, il y a une fusion et puis c'est très, très fort.
Ouais, il y a un vrai truc qui se passe.
Ouais, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je dis, ça m'a coûté cher, mais ça n'a pas de prix parce que ça m'a aussi coûté cher en termes de relations, d'amitié. C'est difficile et puis d'un coup tu t'assumes et donc tu prends un peu plus la parole, tu t'affirmes plus, tes jugements sont plus affûtés, tes opinions, tes avis, tout ça et on se dit oulala, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai toujours été comme ça, non, si, mais sauf qu'en fait je l'exprimais pas parce que je me sentais pas à ma place et je sentais que vous alliez me juger. Maintenant que tu me juges, je m'en fous un peu et si ça te dérange, et tant pis, c'est juste que ça marche plus.
Et tu vois, sur la solitude, c'est marrant parce que ça me fait penser à Alia Cardin que j'ai interviewée. Alia, donc, c'était une grande avocate qui est devenue coach et qui maintenant est une magnifique romancière, écrivain, qui cartonne. Et Alia, elle disait en fait qu'elle a un côté un peu comme toi, avec un côté un peu extraverti. Mais finalement, elle disait qu'aujourd'hui, elle s'est rendue compte avec tout le chemin qu'elle a fait que qu'en fait, être seule, ça lui fait du bien, chose qu'elle aurait jamais pu imaginer avant. Et en fait, c'est rigolo de voir des personnes comme vous qui, et je vais m'inclure dans le lot, parce qu'en fait, on est des personnes hyper sociables qui adoreront voir du monde et compagnie, et qui d'un côté vont être hyper heureuses d'être toutes seules devant leur ordinateur à écrire un bouquin ou à écrire un podcast, ou, et c'est assez marrant, tu vois, de se voir ce truc où finalement de l'extérieur jamais, enfin j'imagine toi, elle, ou enfin on aurait pu imaginer de se dire qu'en fait la solitude nous allait bien.
Exactement. Et moi, je suis une extravertie depuis toujours. Et donc, j'avais toujours l'impression que je me ressourçais avec les autres. Donc, j'avais toujours besoin d'être au contact des autres. Et apparemment, mais ça, je me rends pas compte, mais on me le dit encore aujourd'hui, hein, que j'ai une énergie débordante. Et je m'en rends pas compte, mais bon. Et les gens me disaient, mais je sais pas, est-ce que en fait, je les saoulais, les gens, parce que j'avais trop d'énergie, mais j'avais besoin d'eux. Donc, j'avais besoin qu'ils me nourrissent et tout. Et je disais, allez, fais-moi marrer, allez, on fait des trucs, allez, il se passe quoi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Enfin, j'ai toujours été un peu comme ça sur Aix. Et puis maintenant, je suis là, non mais en fait, j'ai plus du tout besoin de ça. Non pas que j'ai plus besoin des autres, mais j'ai plus besoin des autres pour exister.
Ouais, parce qu'en fait, tu t'aimes, tu te respectes, et en fait, tu n'attends plus des autres ce que tu peux t'apporter à toi-même. Et ça change.
Exactement. Tout. Alors évidemment, non, après évidemment que j'ai besoin des autres pour plein de choses.
Ah ben on a besoin des autres, c'est sûr. Ouais.
Ouais. Mais pour me satisfaire au quotidien et croire en moi, j'ai plus besoin de ce regard des autres qui me disent Pénélope, t'es géniale. J'ai plus besoin de ça. Maintenant, j'aime ce que je fais, j'ai trouvé qui j'étais, ce que je voulais, ce que je voulais pas surtout. Et en fait, ça n'a pas de prix, c'est génialissime. Et si franchement le truc, c'est que c'est difficile quand on dit mais comment t'as fait pour trouver et tout. J'en sais rien. C'est la vie, c'est cette quête de sens. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que en fait cette petite fille depuis 8 ans, ce qu'elle cherche, c'est à être heureuse. Et elle sait pas ce que ça veut dire être heureuse, mais elle, en fait, ça veut juste dire trouver qui elle est, trouver ce qu'elle aime et trouver sa place. Et ça se fait assez, enfin naturellement, avec beaucoup d'obstacles, d'embûches, etc. Mais si on y tient vraiment, il faut juste s'écouter. Et quand on s'écoute vraiment, quand on dit « mais en fait, j'aimerais faire ça », eh ben fais-le. « Oui, mais ça se fait pas. » Bah bon, bah alors, c'est que t'as pas vraiment envie, parce que si vraiment t'avais envie, t'en aurais rien à foutre et t'irais. Alors, évidemment, c'est que t'as peur, dadada, mais en fait, si vraiment c'est ça ton objectif, fonce. On va crever dans quelques années, mon Dieu. Mais quelle tristesse de se dire qu'après, c'est fini. Moi, je crois pas à la mort. Enfin, à la mort, si. À la vie après la mort. Donc allons-y quoi, éclatons-nous maintenant, on n'a qu'une chance de pouvoir le faire. Je trouve ça trop dommage de se dire oui mais non mais oui mais non mais rien. Go quoi, on peut se faire renverser par un bus demain, rien que d'y penser ça me rend malade, mais ce serait dommage de se dire enfin en même temps tu seras mort, tu t'en fous, mais tu te diras pour ceux qui croient à la suite, ils se diront c'est quand même con parce que j'ai pas donné tout ce que j'ai pu, parce que finalement c'est moi je crois quand même qu'on la vie, notre vie dépend de nous.
Ah bah ouais. C'est prouvé hein, scientifiquement hein, que le bonheur dépend à 40% de soi. Donc
ouais, c'est si tu te donnes à fond, si tu choisis, tu sais, t'es dans à la campagne, t'as deux chemins, tu vas à droite ou à gauche, c'est toi qui choisis quoi. Hein. Soit tu vas à droite là où le chemin est beaucoup plus long et plus d'embûches, soit tu vas à gauche facile. Mais au bout du compte, il y a juste un petit étang, alors qu'à droite, il y a une mer magnifique, transparente, avec des petits poissons et une noix de coco qui t'attend. Mais il va falloir que tu marches plus longtemps et que tu aies des obstacles. Et en fait, c'est exactement ça. C'est jusqu'où tu es prête à aller dans l'effort. Et alors, peut-être que ça vient du fait que moi, j'ai fait énormément de sport en compétition et que c'est vrai que j'ai un peu un mental d'acier et que tant que je suis pas arrivée au plus, eh ben, je j'arrête pas quoi. Donc entre ce chemin à gauche où je peux être au bord d'un étang mais c'est moins long et ce chemin à droite où vraiment va falloir en chier mais à la fin t'as ta noix de coco avec ta paille et ton transat, je me dis allez c'est pas grave, on se refait 3 heures de plus de marche mais on y sera, on sera tellement content. En fait le kiff il est tellement fort à la fin que ça vaut l'effort, et puis en fait dans l'effort il y a aussi énormément de choses qui se passent pendant l'effort et ça vaut le coup quoi.
C'était quoi le sport que tu as fait à haut niveau?
J'ai fait du volleyball en compète, ouais. Et là, j'étais, en plus, j'étais passeuse, donc c'était celle qui marquait pas de points. Et j'étais la capitaine. Et donc, c'est moi qui devais dire, quand on perdait 4 points d'affilée, on avait tous le moral à zéro, la tête dans nos chaussures. Et non, les filles, on lève la tête, on y va, c'est pas grave. Oui, ben on a le moral à zéro, on vient de perdre 4 points. C'est pas grave, on y va, on fonce, c'est pas perdu tant que le dernier point n'a pas sonné, c'est pas perdu tant que la balle n'est pas tombée, c'est pas perdu. Donc même si tu crois, c'est comme, tu sais, la balle, t'as quelqu'un qui réceptionne mal, la balle va très loin, tu fais, oh, je l'aurai jamais. Non, mais tu l'auras jamais, t'en sais rien en fait. Va essayer de l'avoir. Et parfois, eh ben, tu cours toute ta vie, tu fonces, tu la rattrapes et t'as quelqu'un par miracle qui la rachope, qui se match, boum, point, marqué, gagné. Et tu t'y aurais pas cru. Mais parce que c'est que dans la tête.
Alors après, si tu dis que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, ça c'est sûr.
C'est sûr.
Ça, pour le coup, ça marche à tous les coups. Si tu dis je n'y arriverai pas.
Ça marche à tous les coups.
Ça, t'es sûr que
tu n'y arriveras pas. Et après, évidemment, que quand tu dis j'y arriverai, c'est pas sûr à 100% que tu y arriveras parce que parfois, ce n'est pas possible. Si la balle, elle est à 70 mètres et que tu es à. Et que tu as mal à la jambe, tu ne peux pas la rattraper, la balle. Mais. On ne sait pas, peut-être. Et en tout cas, on n'est pas à l'abri que le temps que tu ailles la chercher, la personne en face fasse une faute de fil et que du coup, que tu gagnes. Mais si tu n'es pas allé la chercher et que l'autre fait la faute de fil, mais que de toute façon, tu as dit j'arrête et que le mec a sifflé, bah, tu ne laisses même pas la possibilité à l'autre de faire la faute. Donc, en fait, c'est ça, s'il faut essayer. On ne sait pas ce qui peut se passer entre le moment où tu y vas et. Enfin, on ne sait pas, quoi. Donc, il faut se donner les moyens de tout, aller jusqu'au bout. Surtout, moi, je trouve ça hyper, en fait, moi, je trouve ça hyper kiffant. C'est ça, le truc. C'est que moi, je trouve ça génial de se dire, mais ça se trouve, je peux l'attraper la balle. Ça se trouve, je peux arriver à ça. Ça se trouve, je peux, marcher pendant 4 heures sans boire et pas mourir. Non, mais c'est génial de se dire, jusqu'où je pousse mes limites. C'est pour ça que j'ai pas de pensée limitante. C'est que je pense qu'on peut arriver à tout, mais évidemment, dans la limite de la santé, etc. Mais ce moment-là où tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Vas-y, Pépé, vas-y, c'est dans la tête. De toute façon, c'est dans la tête. Eh ben, je trouve ça extraordinaire, cette force de l'esprit qui parfois est plus forte que le corps, quoi.
Ouais. Bah, c'est sûr. Bah, de toute façon, l'imagination est plus forte que la volonté, hein. Donc, il y a un moment, si tu combines la volonté et l'imagination, c'est là où ce qu'on appelle, entre guillemets, des miracles qui peuvent se produire, hein.
Ouais, je sais pas, est-ce que l'imagination est plus forte que la volonté?
Ouais,
ça, genre,
ouais, ouais. Si, j'ai fait une grosse étude dessus pour justement l'intégrer dans le programme. Et oui, l'imagination est plus forte que la volonté. Ça a été prouvé par les neuros, par la neuroscience. Ouais. Donc quand tu mets les deux ensemble, bah, c'est cool.
C'est explosif. Bah, c'est génial. Bah oui, bien sûr. Après, on n'est pas toujours en bonne position pour vouloir, on n'est pas toujours déterminé parce qu'il y a des choses qui nous arrivent personnellement, on n'a pas envie, on n'a pas le moral et tout, mais il faut se mettre en condition et se dire, allez, go, quoi. C'est quand même dommage de ne pas essayer.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Pénélope de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Elle dirait, Pépé, t'as réussi! T'as réussi, Pépé. Bravo. Tu vois, fallait en chier. Tu vois, t'as bien fait de continuer, t'as bien fait de pas changer, de pas te prostituer, de pas te travestir, de pas être qui tu n'es pas. T'as bien fait de rester qui t'es. Parce que j'ai failli des milliards de fois me dire, bon, bah, j'abandonne, en fait, je suis nana qui est censée faire du droit et prendre ce chemin tout tracé, chiantissime, qui me correspond pas. Et je me suis dit, non, mais je veux être moi, je veux m'assumer, je veux imposer mes créas, je veux qu'on... Peut-être que ça plaira mon absurdité, peut-être que ça plaira ma singularité, peut-être que, en tout cas, moi, j'ai envie de me... Il n'y a que comme ça que je veux être heureuse et je crois que si je n'étais pas arrivée, je serais en dépression, quoi. Je ne serais pas bien du tout, je ne sais pas où je serais, mais je ne préfère pas le savoir, d'ailleurs. Mais vraiment, c'est bravo, Pépé, de t'être fait confiance et t'as bien fait parce que c'était sûr que tu y arriverais, parce que c'est sûr qu'on y arrive si on s'écoute et si on... On stick to who you are, to who we are. Enfin, si on se travestit pas, quoi. En fait, c'est ça. Et en fait, la société, les autres et tout nous poussent à changer, à être un peu comme on voudrait qu'on soit, à pas assumer de pas vouloir d'enfants, à pas assumer de vous préférer être seul qu'en couple, à pas assumer d'être entrepreneur et de galérer pour trouver du fric. Enfin, tout ça. Alors qu'en fait, bah, dès que t'assumes, c'est drôle parce que tous ces gens-là qui avant disaient, trouvaient que t'étais un peu hors des clous, Maintenant, ils sont là, waouh, mais je suis admiratif, c'est dingue et tout. Je suis là, ben non, toi, tu m'as pas aidé, hein, mais. Mais c'est drôle, non, mais c'est marrant.
Ou tu m'as peut-être aidé finalement là, bah, ouais, parce que justement, tu. Ton miroir m'a permis d'avancer.
Ouais, je sais pas s'ils m'ont aidé parce qu'en vrai, si j'avais pu me trouver dès 8 ans, ça aurait été extraordinaire. Hein. Mais bon, j'étais pas prête de toute façon, donc non.
Les Japonais, ils disent que pour être heureux, c'est l'ikigai. Et l'ikigai, si tu le trouves trop tôt, tu ne seras pas heureux.
Ben oui, je pense que tu ne peux pas le trouver. Il ne faut pas le trouver trop tôt. Mais d'ailleurs, je pense que tu ne peux pas le trouver trop tôt. C'est bizarre de le trouver aussitôt parce qu'il faut, il faut grandir, il faut être adulte, il faut avoir vécu des trucs, il faut avoir compris des choses, il faut s'être ramassé forcément. Forcément qu'il faut se ramasser. Après, on parle pas c'est pas forcément des énormes drames, hein, mais il faut s'être pris des portes dans la figure, des noms. Et c'est que comme ça que derrière, tu peux te dire, OK, d'accord, maintenant, où je vais, qu'est-ce que je veux, qui je suis. Mais sans tout ça, je pense que c'est difficile de trouver son truc. Sauf si dès le départ, t'es bizarre dans tes pompes, et ça, c'est possible. Et c'est génial s'il y en a qui se posent pas de questions et qui sont bien là où ils sont dès le début, hein. Ça doit exister.
Ouais, bien sûr. C'est quoi pour toi la réussite ?
Ça, c'est horrible comme question. C'est horrible comme question parce que j'ai toujours ce sentiment d'insatisfaction de jamais assez. Donc, j'aurais jamais réussi dans ma vie. Quoi que je fasse, hein, quoi que je fasse, j'aurais jamais réussi. Et c'est assez horrible parce que j'arrive pas à ça. Ça, c'est un truc sur lequel il faut que je bosse et j'essaye de bosser dessus, mais c'est très dur. Je me satisfais pas des petites victoires, tu vois, j'ai pas ces trois trucs de gratitude tous les jours, il faudrait que je fasse ça. Et j'essaye, hein, mais quand on me dit, par exemple, si j'ai une énorme interview sur une grosse télé, on me dit, attends, t'as réussi à l'avoir cette interview géniale. Oui, oui, ok, bon, bah maintenant, quoi, il faut la prochaine. Tu vois, c'est jamais assez. Et du coup, j'apprécie pas ce que j'ai. Enfin, j'apprécie, bien sûr, hein, je suis contente, mais ça se fait naturellement parce que dès que j'ai un truc, c'est OK, bon, bah, next, maintenant que je l'ai, on s'en fout, on y va. OK, on peut avoir plus. Si on a eu ça, ça veut dire qu'on peut avoir encore plus et encore plus et encore plus. Et on peut toujours avoir plus. Sauf qu'il y a un moment, il faut apprendre à dire, Pénélope, là, c'est génial, déjà, tout ce que tu fais. Ça, j'ai beaucoup de mal.
On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi?
Bah, je renonce un peu tous les jours, hein. Évidemment, en effet, le fait de faire des choix, c'est renoncer. Mais sauf que j'aime pas trop ce mot-là. Moi, je le vois plutôt, c'est un peu verre à moitié plein, verre à moitié vide. Je me dis pas que je renonce. Je me dis que je choisis et que je vais ce vers quoi je choisis plutôt que je renonce à. Je le vois toujours positif parce que si je pense à, je renonce à, bah non, mais du coup, tu kiffes pas du tout ce que t'as choisi. Genre là, j'ai déménagé dans un super appartement qui est beaucoup mieux que le précédent, mais je renonce au quartier qui était beaucoup mieux. Et en fait, si je me dis ça, quand on va me dire il est comment ton appart, je vais dire bah il est bien, mais bon, c'est pas le même quartier quoi. Putain, non. Ah bah j'ai un super appart. Point. En fait, sinon tu vois que le négatif et tu deviens pessimiste, c'est-à-dire ouais mais je renonce à ça, je renonce à ça, je renonce à ça. Non 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 non, tu renonces pas à ça, tu vas vers ça. Et si c'est ton choix, c'est qu'il y a bien une raison et que c'est une bonne raison et c'est que il y a des éléments qui ont fait que t'es allé vers ça plutôt que vers l'autre, sinon tu serais resté dans l'autre truc, quoi.
Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner aux personnes qui sont en train de changer de vie et qui n'osent pas encore passer à l'action?
J'aime pas donner de conseils parce qu'il n'y a pas vraiment de conseils. Et je pense pas qu'il y ait des conseils à donner. Je pense que la seule chose que je peux dire, et c'est mon retour d'expérience, c'est que ça. En fait, j'en sais rien. J'ai toujours du mal à donner des conseils là-dessus parce que c'est juste. Moi, j'ai osé parce que j'ai peur de la mort. En fait, moi, c'est lié à ma peur de la mort et donc je me dis, j'ai pas envie de mourir sans avoir fait tout ce que j'ai envie de faire. Et que la seule chose, si ça peut vous aider, c'est que sachez que tous les autres ont peur. Ont aussi peur que vous. On peur du regard des autres, on peur de l'échec, on peur de l'inconnu, on peur de tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, dites-vous que personne ne vous jugera parce que, enfin, ou alors si tout le monde vous jugera, mais en fait, qu'il faut s'en foutre du jugement des autres parce que parce que déjà, s'ils vous jugent, c'est que eux, ils l'ont pas fait et qu'ils vous jalousent, un peu. Et qu'ensuite, ils y arrivent pas, ils le font pas, ils ont pas envie. Peu importe, c'est votre vie tout seul sur votre lit de mort. Vous serez seul à vous dire qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui me jugeaient parce que moi, je voulais faire des choses différentes, aujourd'hui, ils sont là, waouh! Donc, tout ce passage du moment où tu le fais, ils sont pas présents, ces gens-là. T'es toute seule. Et au moment où tu arrives, où tu arrives à être là où t'es, là, ils sont là, waouh, dis donc! Et donc, ce jugement se transforme en admiration. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Et donc, dites-vous que tous ces gens qui vous jugent, tout, parce que finalement, je pense que si les gens n'osent pas, c'est qu'ils ont peur. Et ils ont peur. Alors, il y a plusieurs raisons. Tu peux avoir peur de pas avoir assez d'argent. Tu peux avoir peur qu'on te juge. Tu peux avoir peur de pas savoir où tu vas. Mais en fait, tu sais pas où tu vas. Mais si t'en as envie, tu vas faire en sorte d'aller là où tu veux aller. Et ça sera pas facile, mais tu vas trouver des moyens puisque tu vas te dire, OK, c'est parti. Et il faut croire en la vie. Il faut croire en la vie. Il faut croire en le timing. Il faut croire en la synchronicité, il faut croire à l'alignement des planètes, mais sauf que l'alignement des planètes, il ne se fait que parce que tu as commencé des petits trucs. C'est-à-dire que là, moi, j'ai chopé un appartement un peu via une pénélopade parce que j'ai vraiment insisté auprès de l'agent immobilier, etc. Nanana, alors que j'avais pas un bon dossier. Et pourquoi j'ai trouvé cet appartement? J'avais pas du tout envie de déménager. Enfin, c'était pas du tout un projet de court terme. Mais à un moment, ma sœur m'a envoyé une annonce et avant ça, je voulais quand même changer de canapé. Et donc, c'est chiant de changer de canapé, il faut le descendre, faut en retrouver un autre, c'est cher, etc. Et je me suis dit, je vais m'acheter un canapé. J'ai acheté un canapé et le fait d'avoir acheté un canapé, donc de changer de canapé, c'était comme, mais inconsciemment, un premier step au changement dans l'habitat. Et derrière, quand ma sœur m'a envoyé cette annonce sur sologer.com, en temps normal, j'aurais dit, non, mais laisse tomber, j'ai pas eu envie de déménager. J'ai regardé parce que dans ma tête, j'avais déjà créé quelque part un switch de tiens, je changerais bien quelque chose. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette histoire de changement de canapé, je ne serais pas dans ce nouvel appartement. Donc, c'est que des petites choses. On ne s'imagine pas comme chaque petite chose anodine peuvent créer des opportunités qu'il faut derrière savoir saisir. Et ça engage parfois, etc.
C'est hyper important, en effet, de réveiller chacun de ses hémisphères du cerveau, faire en sorte, dans sa vie, faire des petites choses nouvelles tous les jours. Ça a un impact immense sur justement fait de pouvoir être mieux, saisir les opportunités.
Exactement. Il faut rester alerte et il faut faire. Après, il faut aussi se prendre des moments de pause, de j'y arrive pas, de rien, etc. Mais si vous avez envie et que vous n'osez pas, commencez par des petites choses. Et chaque petite chose va en amener une autre, et tatata, et à un moment, vous allez. En fait, il y a un moment, ça va être comme une tête qui sort de l'eau, quoi. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Et cet instinct, il faut le suivre. Et moi, je crois plus que tout en l'instinct. Si vraiment je devais croire en quelque chose dans ma vie, c'est en l'instinct. Vraiment, ça nous trompe pas. On se connaît par cœur, même si on a l'impression de pas se connaître. On se connaît par cœur. On sait ce qui est bien pour nous. On sait ce qui est pas bien. Quand on sent que notre mec nous trompe, ça vient pas de nulle part. Quand on sent que le deal, on va pas l'avoir, ça vient pas de nulle part. Tout ça, et alors on sait pas d'où ça vient, mais je pense que sur un divan pendant 3 heures, tu comprends qu'en fait, c'est parce que l'autre, à un moment, a dit « c'est pas le moment », mais il l'a dit tout bas, ou tatata. Enfin, et on sait tout ça. Parce qu'on emmagasine des choses d'un peu de partout, dans une conversation, dans une pièce, etc. Et il y a des gestes, et tout ça, ça trompe pas. Mais nous, notre conscient, il fait pas ça, il fait pas état de tout ça. Mais notre inconscient le fait. Et tout d'un coup, on se dit, non, mais je ne sais pas pourquoi je le sens pas, ce mec, ou je le sens pas, ce truc, ou je sens que j'ai l'appart, je ne vais pas l'avoir. C'est comme l'appart, je sentais que j'allais l'avoir, je savais que j'allais l'avoir, je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. Et ça, il faut s'écouter. Et c'est ça, il faut écouter son intuition. Et peut-être qu'on se trompe. Ça arrive. Et peut-être qu'on se trompe. Merde, je me suis plantée. Bon, ok, ça arrive, c'est pas grave. Ça arrive. Et on répare, et tant pis, on recommence.
Quand tu dis là sur le fait qu'on sait qu'on va l'avoir, en fait, il y a le côté, je pense qu'il y a un vrai côté, tu vois. Moi, je l'ai expérimenté là pour la maison qu'on a achetée. C'est qu'en fait, quand j'ai visité cette maison, je me suis dit, c'est elle, quoi. C'est elle. Elle était au-dessus du prix qu'on avait vu, on avait en tête. Enfin, bref, il y avait plein de raisons qui faisaient que ça allait être compliqué d'avoir cette maison. Mais je me suis dit, c'est elle. Enfin, je l'ai senti au plus profond de mes tripes. Après, il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot parce que. parce que j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, en fait, tu ramènes tes fesses là demain parce que la maison, faut la visiter maintenant parce que on a déjà une maison qui nous était passée sous le nez. Mais au final, c'était une bonne chose parce que c'était pas elle, donc ça tombait, enfin, c'était pas la maison qu'il nous fallait. Mais en fait, une fois que tu as ce truc en toi de te dire, c'est cette maison, enfin, c'est ce job, c'est ce projet, c'est ce truc, c'est qu'en fait, quand tu es tellement convaincu et que tu as ta petite voix qui te dit, c'est bon, c'est elle. En fait, tu as plein de choses, ta posture et puis tout ce que tu vas faire qui vont faire que tu vas en effet l'avoir. Mais c'est pas,
bien sûr.
C'est pas le truc magique en mode ah bah oui, j'ai dit que, enfin, ma petite voix m'a dit que c'était elle, donc c'est bon. Mais c'est qu'en fait, on va être dans un mindset et compagnie qui va faire que, voilà, l'agent immobilier, je l'ai pitché en lui disant bah voilà, nous on va faire une offre à X dizaines de milliers d'euros en moins par rapport à ce qui était annoncé. Et j'ai fini en lui disant, bah, pourquoi pas nous, quoi. Et je lui ai parlé de mon podcast et machin. Enfin, tu vois, je l'ai impliqué. Et puis, bah, pareil, le banquier, quand il a fallu aller le pitcher pour lui dire, bah, voilà, moi, je suis au chômage, je suis en fin de droit et je voudrais emprunter. Et mon mari est entrepreneur. Alors, ça fait sa boîte, il l'a depuis longtemps, mais bon, quand même. C'est pas idéal. Et là, pareil, il faut embarquer les gens. Et puis, bah, il y a un moment, bah, c'est bon, quoi.
Exactement. C'est ce qu'on appelle la visualisation.
Exactement. J'ai un beau petit tableau de visualisation à côté de mon bureau. C'est quoi tes prochains défis?
J'en ai pas là. J'en ai pas. Moi, tu sais, je marche pas trop. Là, j'en ai pas à court terme, mais ça va peut-être arriver dans 10 minutes ou dans 3 semaines. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Mon défi majeur, c'est évidemment de continuer à pouvoir me payer et avoir cette boîte. Mais après, en petit défi, projet, tout ça, j'en ai pas. Ça vient vraiment au jour le jour. Là, tu vois, il y a 2 jours, on m'a appelé. Il fallait que je fasse une presse pour un podcast de marque pour dans 2 jours. OK, bim, bim, bim. Ça se trouve, ça va être oui et je vais devoir le shooter pendant 1 mois. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent comme ça et je les connais pas à l'avance. Et c'est ça qui est assez génial d'ailleurs. C'est que du coup, mes journées ne se ressemblent pas.
Ça me fait penser à l'objet que tu avais choisi pour te présenter, qui était un collier de bonbons acidulés où tu disais dans chacun, quand on le croque, on ne sait pas quel goût il va avoir.
Ouais. Oui, on ne sait pas quel goût il va avoir. Et surtout, quand on croque, soit on l'a tout dans la bouche, soit il tombe. Voilà. Bah, soit on se ramasse, soit ça fonctionne, soit c'est banco, soit c'est vraiment un échec. Et ce n'est pas grave, on en essaye un autre. Et celui-là aussi, il se ramasse. Et ce n'est pas grave. Et puis, à un moment, dès qu'on va avoir le vrai bon dans la bouche, parce qu'on aura fait la bonne technique, parce qu'à force, bah, on aura compris. Bah c'est jouissif et du coup tu continues à appliquer la même technique et ça marche, ah, et puis à un moment ça ne marche plus, mais c'est pas grave, on recommence et c'est sans fin et c'est génial.
Il y a sur Instagram, il y a une personne, Aurélie, qui m'a demandé dans les questions, elle me dit j'espère qu'elle a toujours autant la pêche, donc bon, je pense qu'Aurélie aura la réponse en ayant écouté cet épisode.
J'ai toujours la pêche, ouais, j'ai toujours la pêche. Alors évidemment, je l'ai pas toujours 24/24, hein, mais je l'ai souvent. Ouais, je l'ai souvent parce que je sais pas, parce que je crois que je suis un peu comme ça et que la vie est belle. En fait, la vie est, maintenant je la trouve belle, que toutes les opportunités sont possibles, que toutes les portes sont ouvertes et qu'on est libre et qu'on n'est pas dans une prison, dans son cachot d'isolement. Enfin, en tout cas, pas encore. J'ai pas encore fait de bêtises au point d'aller en prison et j'espère que j'en ferai pas. Mais quand tu vois un film, moi, à chaque fois que j'adore les films sur les prisons. Et quand je vois un film avec des prisonniers, je me dis, mais mon Dieu, mais quelle chance j'ai d'être là, à l'air libre. Et pour rien au monde, je voudrais vivre ce qu'ils veulent, vivre ce qu'ils vivent. Et bah, allons-y, quoi. Profitons-en. Gâchons pas ces moments précieux.
Gagnons notre vie. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
J'ai envie de dire merci à tous mes auditeurs qui sont au taquet, qui sont trop sympas, c'est une petite communauté qui s'est, enfin, pas tous les auditeurs parce qu'il y en a eu beaucoup, mais tous ceux qui sont sur Instagram, en tout cas, ils me soutiennent. Il y en a plein des auditeurs qui essayent de me choper des nouveaux abonnés sur Instagram en me disant suivez Pénélope, allez-y, elle est super, qui m'encouragent, qui me disent que ça les inspire, que ça les aide, qu'il faut que je continue, que ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis que je fais pas ça pour rien. Ouais. Ensuite, évidemment, merci à ma sœur Dorothée, ma sœur Dodo, dont je parle dans le livre qui est extraordinaire, qui a toujours été un peu mon modèle. Alors au départ, quand on était petite, c'était pas facile. Enfin si, ça a toujours été génial, mais bon, c'était le modèle, quoi. Je voulais lui ressembler, alors que j'avais rien à voir avec elle. On est vraiment différentes. En même temps, on est quand même de la même trempe et c'est elle qui me pousse, en fait. Par exemple, quand j'écris un texte que je trouve super, je lui envoie, je dis, c'est pas mal, hein. Elle me dit, non, ça va pas du tout. Oui, c'est un super premier jet, mais Pénélope, tu peux aller encore plus loin. Je dis, non, mais attends, là, t'abuses, c'est quand même pas mal. Non, va plus loin, travaille chaque mot. Vas-y, sors de tes tripes, va au plus profond et tout. Et c'est ma coach, c'est ma coach. C'est ma coach, je l'aime tellement fort. Et évidemment, mes parents, parce que c'est eux qui m'ont toujours dit, Pénélope, tu es ce que tu es. Il y a du bon, du moins bon, hein, parce que tu as des sacrés gros défauts insupportables, mais tu es aussi créative, etc. Et en fait, un jour, tu trouveras qui t'es, mais ça va être dur parce que tu es un peu singulière, mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Et nous, on est toujours là, et quoi que tu veuilles faire, on sera là. Tu veux être peintre en bâtiment, je me souviens, il m'avait dit un jour, si tu veux être peintre en bâtiment, vas-y, fais peintre en bâtiment. Si tu vas être heureuse là-dedans, vas-y, fonce. Mais en revanche, fais les choses jusqu'au bout. On m'a toujours dit ça. Fais les choses jusqu'au bout. Ne lâche pas, n'abandonne pas avant d'avoir essayé tout ce que tu pouvais. Et dans le livre, dans le tome 1, il y a cet épisode de la calculatrice où je cours pour aller rendre la calculatrice à ma mère. Alors, en tome 2. J'ai oublié de lui rendre. Ah, c'est tome 2 ?
Tome 2, je crois. Ouais, tome 2.
Ouais, tome 2. Ouais, tome 2. Je sais même plus. Tu vois, j'ai oublié de lui rendre la calculatrice alors qu'elle a un examen hyper important, etc. Et il me reste une heure pour aller lui rendre. Et l'endroit où elle est à une heure. Franchement, c'est très compliqué. Donc, je cours comme une bourrine. Je n'y crois pas, mais j'y crois parce que je n'ai pas le choix, en fait. Sinon, elle va planter son examen et c'est de ma faute. Et je donne tout ce que j'ai, mais tout ce que j'ai. Et ben, je ne vous dis pas si j'y arrive ou pas. Mais je laisse les gens lire et découvrir. Mais voilà, et mes parents m'ont toujours dit, tu essayes jusqu'au bout, jusqu'à... Et c'est... Quand je faisais du volley, ils m'ont dit, hop, tu n'abandonnes pas tant que le ballon n'a pas posé ses fesses au sol. Et ça, et même un entretien à chaque fois, ok, merci beaucoup, au revoir, je serre la main. Et limite, après, une fois que tu as tourné le dos et que tu vas ouvrir la porte pour la refermer, c'est fini pour toi. Non, ma mère m'avait dit, l'entretien n'est pas terminé tant que tu n'as pas passé la porte. Il peut se passer plein de choses entre le moment où tu te lèves et que tu as dit au revoir et le moment où tu as passé la porte. Donc, tu fais gaffe. Tu ne te mets pas à te détendre et à faire « ouais, c'était chambé ». Non, tu restes tranquille, tu fais ton truc, et tu n'abandonnes pas tant que c'est pas fini. Quoi. Ouais. Et ça, c'est ils m'ont appris ça. Et plein de choses comme ça qui m'ont apprises et qui fait que du coup, je suis un peu dans les extrêmes, pas équilibrée, jusqu'au boutiste, sans limite, fatigante, trop d'énergie, etc. Mais aujourd'hui, ça, c'est ce qui fait ma force. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai beaucoup d'imagination et de créativité, c'est que tout est possible. Donc, je peux aller n'importe où, dans n'importe quel domaine, je peux aller m'éclater, quoi, parce que j'ai pas de limite. Voilà. Donc, merci papa, merci maman, merci dodo, merci les auditeurs. Et merci Charlotte pour cette interview super.
Avec plaisir, merci à toi. Juste avant qu'on se quitte, il y a sûrement des personnes qui, quand ils liront ton livre, se demanderont si tous les éléments racontés sont vrais.
Oui. Eh bien, tous les éléments racontés sont vrais, sauf une histoire dans le tome 2 qui est fausse et que, évidemment, je ne dis pas laquelle.
Mais la sinon, vilaine.
Tout est vrai. Alors, c'est romancé, mais tout est vrai. Eh bien oui, ben, attends, non, je ne vais pas vous dire.
Et en tout cas, j'invite les podcasteurs à lire le tome 2. Enfin, j'invite tout le monde à lire le 1 et le 2, évidemment. J'invite les podcasteurs à lire le tome 2 parce qu'il y a une révélation sur un des secrets que tu révèles par rapport à Apple Podcast. Je n'en dirai pas plus. Petit teasing.
Non, c'est un gros pavé dans la mare que je balance. Je pense que les gens vont être choqués. Choquée et en même temps il fallait que je le dise à un moment parce que j'avais pas envie de me cacher, mais en même temps c'est pas de la triche hein, mais c'est un moyen ingénieux que j'ai trouvé pour
une pénélopade
me faire connaître, et c'est une grosse pénélopade là, vraiment c'est la plus belle pénélopade ever et je suis hyper contente, et n'hésitez pas à la faire aussi la vôtre hein, parce que voilà, parce que ça paye les ads, les prénoms ads.
Ouais. Merci beaucoup Pénélope et puis bah, à très vite.
Merci Charlotte.
Salut.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour avoir le lien des livres de Pénélope, rendez-vous sur pourquoipasmoi.com. Et pour avoir plus de détails sur le programme dont je vous parle avec Pénélope, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.